En tant que chrétien, peuple du livre, la parole de Dieu, la vérité, etc., hein, donc on a cette idée qui est ancrée que la Bible est vraie et puis tout ce qui est dans la Bible est vrai, ce qui est vrai. Mais ça peut être un piège et on doit se rappeler que la vérité n'est pas un montage théologique, n'est pas un ensemble de choses vraies. La vérité, c'est la façon de penser d'une personne réelle, Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas le voir. Et par le Christ, nous pouvons le voir. Donc la vérité, c'est ce que ce personnage, Dieu-homme, Jésus, le Christ, est, dit, pense, fait. C'est cela la vérité. Vous connaissez tous ce verset, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ou dans la version du semeur, intéressante, le chemin, c'est moi, car je suis la vérité et la vie. C'est la même chose, mais avec un petit renversement. Donc ça, c'est un élément qui est très important pour trouver ou pour garder le sens de la vie dans les Écritures. C'est de se rappeler que la vérité n'est pas un système d'idées théoriques, c'est la façon de penser d'une personne. Je pense que vous connaissez tous ce principe-là. Si vous connaissez très bien quelqu'un, que ce soit votre meilleur ami, votre conjoint, un parent, si quelqu'un d'autre vous dit, tiens, cette personne a dit ça, vous allez dire non. Elle n'a pas pu dire ça. Parce que je la connais, elle ne parle pas comme ça. Ou au contraire, à ça, c'est tout à fait ça. Hein? Je pense que pour vous, ça fait référence à quelque chose. Pour illustrer ça, je suis un très grand amateur de Francis Cabrel. Je connais tous ses albums par cœur et j'aime énormément. Et puis, il y a quelques années, un jour, j'écoutais, je sais pas, ça va être la radio qui passait. Et puis, il y a une chanson qui passe avec une jeune femme qui chantait, c'était Isabelle Boulay. Et puis je me dis, mais c'est incroyable cette chanson qu'elle chante. On dirait un texte de Francis Cabrel. Et puis par curiosité, ben aujourd'hui c'est facile, je regarde. Et en fait, lui qui n'écrit jamais de morceaux pour personne, il a fait une exception dans sa vie, il a écrit une chanson pour cette dame. Et parce que je connaissais tellement, j'ai beaucoup écouté sa façon d'écrire, enfin ouais, ses textes, je l'ai reconnu là-dedans. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On devrait, en tant que croyants, être des connaisseurs de Jésus-Christ. Parce que lorsque, en tant que chrétien, je dis quelque chose, je devrais toujours pouvoir me dire, mais est-ce que dans la bouche du Christ, ça sonnerait juste ou pas? Alors, je sais que c'est un moyen subjectif, hein. Et bien sûr qu'on ne peut pas utiliser ça pour dire, pour aller contre quelque chose qui est clairement écrit et qui est évident, parce que nous, on s'imagine que ça sonnerait bien dans la bouche du Christ. Mais quand même, c'est quelque chose, je trouve, qui est très, très utile, parce que ça nous permet de relier la vérité à quelque chose qui n'est pas juste des idées, des valeurs, des notions ou des choses abstraites. Hein. Toujours dans le même chapitre de Jean, Jésus dit à Philippe, enfin plutôt Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, ça nous suffit. Hein, vous connaissez ce texte. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, ce qu'on cherche dans notre compréhension de la vérité et donc du sens de la vie, comment les choses fonctionnent. C'est toujours relié pour nous, êtres humains, à la personne de Christ, parce que Dieu, c'est compliqué. Il y en a un, mais ils sont trois, mais il y en a un. Voilà. La théologie peut nous l'expliquer, et c'est intéressant. Hein. Si je prends l'exemple que j'ai donné ce matin avec la grenouille, découpée en morceaux, hein, je nie pas l'intérêt de disséquer une grenouille pour comprendre comment fonctionne le vivant. Mais après, il faut se rappeler que la vérité, c'est la grenouille vivante. La théologie fait le travail du biologiste qui découpe la grenouille. Elle va essayer de découper l'enseignement, les pensées, les valeurs, ce qui est enseigné dans la Bible pour le classer et je dis ça avec respect pour les théologiens, mais le mettre dans des bocaux de formol sur des étagères pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et c'est important, il faut le faire, hein, je le dis clairement. Mais il faut se rappeler que le but, ce n'est pas d'avoir des étagères avec des bocaux, avec tout découpé dedans, mais c'est de pouvoir comprendre comment fonctionne la vie pour vivre. Hein. Donc toujours faire le lien entre les deux. Et donc de remettre Christ au centre, c'est essentiel. Rien que ça, bien sûr, ça pourrait être le sujet d'un très long séminaire, mais je continue. On va prendre maintenant pour expliquer un petit peu ce sens de la vie, toujours dans les Écritures, un exemple facile. C'est un verset qui se trouve dans Marc, sauf erreur. Voilà, Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans ce cas-là, il y a un sens. Hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si je le prenais à l'envers et que je dis celui qui sera baptisé, ou plutôt pour être sauvé, il faut être baptisé et comme ça on croira, ça serait faux. Hein. Il y a un sens unique dans cette déclaration. Dans le cas de ce verset, c'est simple parce que le sens interdit, pour ne pas le prendre à l'envers, se trouve dans la deuxième partie du verset que je n'ai pas écrit là, exprès, hein, et qui dit « Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, c'est un peu comme si dans cette déclaration essentielle, le Saint-Esprit avait choisi de nous mettre les panneaux sans unique et sans interdit. Hein, voilà. On croit, on est baptisé, on est sauvé, et puis celui qui ne croit pas, hop, on ne peut pas le prendre en rebrousse-poil, cette déclaration-là. Dans ce cas-là, c'est simple. Mais il y a beaucoup d'autres textes où le sens interdit n'est pas posé. Et c'est facile de prendre dans un sens ou de prendre dans l'autre. Et souvent, on l'a appris dans le mauvais sens. Mais avant de développer plus ça, j'aimerais essayer de revenir un petit peu pour qu'on comprenne ça. Et tous ces... Parce que le sens de la vie, j'ai parlé ce matin aussi des cycles de la vie. Hein. Essayez de voir quel était le fonctionnement original et originel pour Dieu. Et pour ça, je vais encore utiliser quelques petites images. Alors, ici, on a un petit schéma classique, vous avez sûrement déjà vu, je ne l'ai pas inventé. Dieu, donc cette réalité-là, on le sait par la révélation. Hein. Il n'y a rien dans la nature ou dans l'observation qui peut nous révéler cette chose-là. C'est la révélation spécifique qui nous l'apprend. Il y a un Dieu, une seule essence, trois personnes. Donc un seul Dieu, trois personnes qui peuvent dire « je », qui ont une volonté, etc., mais qui sont esprits les trois, même s'il y a l'esprit, mais Dieu est esprit. Voilà. Et dans ce fonctionnement-là, le Père aime le Fils et l'Esprit, le Fils aime le Père et l'Esprit, l'Esprit aime le Fils et le Père. Chacun donne aux autres, chacun reçoit. Et cette circulation de vie permanente, déjà, peut nous aider à comprendre, on ne peut pas le saisir, mais un petit peu, pourquoi Dieu peut demander qu'on l'aime sans être égoïste. Parce qu'en fait, Dieu est pluriel et que Dieu, quand il s'aime lui-même, c'est chaque personne qui aime les deux autres. Et dans mon vocabulaire personnel, j'appelle ça le générateur de l'univers, ce tourbillon de vie qui est créé par le Père qui aime le Fils et l'Esprit, le Fils qui aime le Père et l'Esprit, l'Esprit qui aime le Père et le Fils. Et c'est un tourbillon d'amour où chacun donne et reçoit, personne prend et ça circule. Et c'est un circuit infini, hein, l'amour de Dieu ne s'use pas. Et c'est à l'origine de toute chose, lorsque la Bible nous dit que Dieu soutient toute chose par sa parole, toute l'énergie, ça n'engage que moi, hein, mais qui fait que l'univers se développe, que les atomes sont à leur place, que ça tourne, que ça fonctionne, vient de ce générateur-là. Ensuite, dans son choix de sa volonté, Dieu crée l'univers et puis il crée les humains. Et on arrive à l'image d'après. Voilà. Et donc, ce qui était prévu au départ, initialement, Dieu, donc, lui-même est dans un circuit qui ça tourne toujours, hein, qui donne aux humains, et les humains reçoivent de Dieu, et ça retourne vers Dieu. Et puis ça, c'était la place de l'être humain qui gravitait autour de Dieu, qui recevait d'abord toujours, et puis qui ça retournait. Hein, voilà, on a cette petite idée qui sort, même si c'est un texte poétique, du livre de la Genèse, Dieu qui vient tous les soirs et qui discute avec les humains, et puis ça circule comme ça. Ça, c'était le plan initial. Ensuite, il y a le choix qui est fait par les humains de se décentrer. Au lieu de graviter autour de Dieu, ils vont graviter autour d'eux-mêmes. Vous serez comme des dieux. Et donc, chaque être humain est un petit dieu dans un monde minuscule qui est sa vie. Et c'est lui qui décide ce qui est vrai, ce qui est faux, s'il y a de la valeur, ce qu'il n'y en a pas, etc. Donc, le circuit originel, Dieu, les humains, Dieu, et qui fonctionnait comme ça, comme tout ce que la nature nous enseigne, qui peut fonctionner à l'infini sans qu'il y ait de perte, comme ça, ça fonctionne. Il est brisé, et en fait, au lieu que ça retourne vers Dieu, ben, les humains qui tournent sur eux-mêmes, ça produit les guerres, l'égoïsme, la destruction, le mensonge, les souffrances, et quelques titres, mais bien sûr, la liste serait horrible. On pourrait la continuer presque à l'infini. Dans cette circulation-là, voilà, la situation était comme ça, Dieu intervient, je ne refais pas un survol de la Bible avec le plan de Dieu pour reconnecter les humains avec lui. La loi, les prophètes, Moïse, etc. Christ vient et la possibilité maintenant pour chaque être humain nous est offerte de retrouver un cycle de vie qui fonctionne. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc maintenant, lorsque j'ai été réconcilié avec Dieu, que j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi, que je suis devenu un enfant de Dieu, peu importe le vocabulaire qu'on utilise, hein, mais l'idée c'est que je suis reconnecté avec la vie de Dieu et je peux retrouver un fonctionnement d'un cycle de vie, hein. Alors, tout part de lui, Dieu, intimité avec Dieu, ça produit j'ai appelé ça énergie spirituelle, hein, donc transformation intérieure, appelez-le comme vous voulez, mais un changement à l'intérieur. Ce changement intérieur porte du fruit, hein, vous savez que la Bible nous parle du fruit de l'esprit, c'est pas un hasard, c'est pas les œuvres, c'est le fruit, et le fruit, c'est toujours le résultat de la fécondation de la fleur, etc. Donc, c'est quelque chose de vivant. Et ces fruits se manifestent par un retour vers Dieu. On appelle ça en général louange ou adoration. Hein, mais quand je parle louange, adoration, là, je ne parle pas juste de chanter des chants le dimanche matin. Hein. C'est tout ce qui est l'expression de la reconnaissance dans le sens littéral du mot reconnaissance. C'est-à-dire que chaque fois que je reconnais Dieu partout dans la vie, donc quand je me lève le matin et que je dis « Waouh, je suis vivant » et que pour moi, c'est un lien avec le fait que Dieu m'a donné la vie, c'est de la louange parce que j'ai reconnu l'action de Dieu dans cette pensée. Que ça se traduise par le chant, ce n'est pas un souci, mais c'est un tout petit aspect de la louange ou de l'adoration. Les fruits de la vie de Dieu en nous produisent aussi un amour pour les autres humains, croyants et non-croyants. Cet amour-là produit aussi de la reconnaissance, ça revient aussi à Dieu, le cycle continue. Et puis, il peut y avoir une part d'ingratitude, il y a du déchet dans nos vies toujours. Hein. On n'a pas des circuits parfaits dans la vie. Ben, des fois, j'ai plein de choses de la part de Dieu, mais je ne suis pas reconnaissant. Ou des fois, on transmet, nous, quelque chose de positif qui vient de Dieu à quelqu'un d'autre, et puis, il ne rend pas grâce à Dieu pour ça, il ne le remercie pas, il y a de l'ingratitude. Donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte de perte là, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu est toute une source d'énergie renouvelable qui ne s'use pas, au contraire. Mais voilà comment ça devrait fonctionner normalement. Ça vient de lui, l'intimité, l'énergie spirituelle, le fruit de sa vie, et puis aussi une partie vers les autres. Si on passe à l'image d'après, donc, qu'est-ce que c'est qui va développer cette intimité avec Dieu, hein, puisque sur le schéma précédent, on a vu Dieu, intimité avec Dieu. Maintenant, je développe un petit peu ce point-là. Alors, on a la parole de Dieu, révélée dans les Écritures, hein, bien sûr. Tout ce qu'on appelle l'étude, la lecture, etc., la méditation, la prière, hein, tout ce qui nourrit cette partie-là à partir de la révélation spécifique des Écritures. On a la beauté de la vie, l'émerveillement, la reconnaissance, cette chose qui est quand même innée chez l'être humain, normalement, et en tout cas surtout chez l'enfant. Après, on peut le conserver ou le perdre ou le développer, hein, de s'émerveiller devant une goutte d'eau sur une feuille, un insecte qui traverse, un paysage, un coucher de soleil, ou pour certaines, une équation de mathématiques ou les rouages d'une montre ou d'un programme, un algorithme, peu importe, quelque chose qui nous émerveille et on réalise que waouh, la vie est belle parce que Dieu l'a créée comme ça, parce qu'il nous a créé, donc l'émerveillement là. Le partage et l'expérience des autres, ça c'est quelque chose qui nourrit notre intimité, notre dialogue avec Dieu, parce que les autres me questionnent, parce qu'ils me font remettre en question mes idées, parce qu'ils m'apportent du grain à moudre, parce que etc. Hein. On en parlera plus tard aussi. Et puis, les épreuves, les incompréhensions, les difficultés, les crises, si on veut. Toutes ces choses-là sont, et il y en a probablement d'autres, hein, j'en ai listé comme ça, j'ai fait 4 catégories, nourrissent notre intimité avec Dieu, et donc nous permettent de fonctionner dans ce parcours de vie. Si on va un petit peu plus loin, on passe à la diapo suivante. Hein. Donc là, maintenant, je développe un petit peu la première petite bulle, puisque c'est quand même un séminaire qui est organisé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, quel est le lien entre la Bible et le cycle de la vie, hein. Donc, la Bible, qui n'est pas un livre de théologie, c'est une bibliothèque, vous le savez, je ne vous apprends rien, avec plusieurs livres, avec beaucoup de styles différents, par des auteurs différents, etc., etc. Mais elle contient la pensée de Dieu. Hein. Donc, on va partir à la recherche de la pensée de Dieu. Il y a l'écoute et la lecture. Il y a la compréhension et le déchiffrage. Alors, pour ça, on va utiliser les outils qui sont à disposition, et à notre époque c'est assez magnifique parce que je dirais n'importe quelle personne peut avoir plus de matériel pour déchiffrer, pour comprendre à sa disposition en restant chez soi qu'il y a 50 ans les professionnels entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais pasteurs ou autres avaient moins à leur disposition que ce que tout le monde peut avoir aujourd'hui. Ça peut être une difficulté parce qu'il faut aussi savoir quoi utiliser et comment. Enfin voilà, donc pensée de Dieu, l'écoute, la lecture, la compréhension, le déchiffrage. Et on arrive à la méditation, qui est peut-être dans les églises évangéliques un parent pauvre par rapport à la Bible. La Bible, en général, on l'étudie, on la lit, et après on nous dit « maintenant, il faut la mettre en pratique ». Et là, on touche un des points pour moi essentiels dans le sujet du jour. Découvrir ce que Dieu dit et passer directement à l'étape « maintenant, il faut la mettre en pratique », c'est sauter des étapes dans les cycles de vie. Et c'est, je pense, quelque chose qui produit ou l'hypocrisie ou le découragement. Parce que si on saute des étapes et que donc voilà, j'étudie la Bible et par exemple, je comprends que Dieu dit « soyez patient ». Et puis, ma compréhension, c'est que maintenant, je dois être patient. Ou souvent, le prédicateur va dire « voilà, Jésus était patient, Dieu est patient, vous devez être patient ». Bon, alors je dis « je vais être patient », puis je dis à Dieu « aide-moi à être patient, éventuellement hein ». Et là, il y a deux possibilités. Soit naturellement, je suis quelqu'un de patient, donc je vais arriver à être patient et je vais être tout fier parce que je suis patient. Et puis quand je vais croiser mes frères et sœurs qui ne sont pas patients, je vais les regarder avec condescendance et bien sûr gentillesse puisque je suis un gentil chrétien. Mais quelle honte ces chrétiens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu et qui ne sont pas patients. Deuxième cas de figure, j'ai un gros problème avec la patience, je suis un impatient et puis si j'y peux rien, je suis impatient. Et là, ben, j'ai beau me dire quand je me lève le matin, je dois être patient, je dois être patient, je dois être patient, ben, je suis toujours impatient. Alors, soit je me décourage et je me dis, ben, j'y arrive pas. Soit je fais semblant d'être patient quand je rencontre mes amis chrétiens et on retombe dans le cloisonnement parce que, et puis je me permets d'être impatient dans d'autres endroits où je peux envoyer promener les gens parce que là ils savent pas que je suis chrétien et puis ils s'en moquent et puis je peux enfin être qui je suis, hein, vous voyez avec les tensions que ça produit, et je deviens un hypocrite. Donc j'ai le choix dans ce fonctionnement là entre l'orgueil, l'hypocrisie ou le découragement. Mais je ne pense pas que ce soit les seules solutions. Pour découvrir, on découvre la pensée de Dieu, on lit, on comprend, on déchiffre. Mais là, après, on va rentrer dans la méditation, la prière silencieuse, le dialogue avec Dieu. Alors, c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir notre vocabulaire, je pense, pour définir ce qu'on vit. Moi, c'est ce que j'appelle cette partie-là la prière respiration, et c'est comme ça que je comprends l'encouragement de Paul lorsqu'il dit « prier sans cesse ». Je ne pense pas que par là, Paul voulait dire qu'il fallait passer 24 heures sur 24 à genoux avec une liste d'intercession, mais il y a une partie de la prière, l'intercession en fait partie, c'est autre chose, hein, mais il y a une partie de la prière qui est cette connexion silencieuse, ce dialogue avec Dieu qui peut être presque permanent, des fois on en est moins conscient que d'autres, mais qui nourrit notre vie intérieure. Et puis, après l'étape d'après, j'ai mis fécondation par consentement. On sait que Dieu veut des fruits dans nos vies, pas des actes. Et le fruit, c'est une fleur qui a été fécondée. Et en fait, lorsque je comprends, je prends l'exemple de la patience, voilà, je suis impatient, je viens devant Dieu dans ma méditation, dans ma prière, dans ma relation avec lui, comme je suis. Ben, Seigneur, tu dis qu'il faut être patient, moi je ne suis pas patient. Je voudrais bien devenir patient, mais voilà, je ne sais pas ce que je peux faire pour ça. Mais je consens à ce que tu me transformes. Et il y a cette chose intime et magnifique qui est le mélange de notre foi avec ce que Dieu nous propose et le consentement. Chez les êtres humains, on appelle ça les relations sexuelles. Chez les fleurs, ben, c'est les insectes qui le font. Enfin, il y a beaucoup de moyens dans la nature. Mais il y a un moment, il y a une fécondation. Dans le secret de mon intimité avec Dieu, et parce que j'accepte d'être avec mon impatience, j'ai pris ce sujet-là, hein, comme ça, dans la présence de Dieu, en consentant à ce qui me transforme, il va commencer un travail, je crois au miracle, donc des fois dans certains domaines, il peut y avoir des miracles du jour au lendemain. La plupart du temps, il n'y a pas de miracle. Il y a une vraie fécondation avec une gestation. Lorsque Jésus fait des miracles, d'ailleurs, alors ça c'est, je fais une parenthèse, il y a un livre passionnant de C.S. Lewis qui s'appelle Miracle, où il explique que les miracles de Jésus ne sont pas des choses farfelues, c'est juste, il a gardé le cycle de la vie, mais il a raccourci les délais. Quand Jésus multiplie le pain, il prend pas des pierres pour faire du pain, il prend un pain, il fait plein de pain. Mais normalement, avec un grain de blé, on fait plein de grains de blé qui font plein de pain. Hein. Lorsqu'il change de l'eau en vin, ben, normalement, l'eau elle est absorbée par la vigne, et puis, etc. Donc, le miracle, c'est que Dieu, des fois, raccourcit les temps, les délais dans les cycles de vie, mais il ne fait pas les choses à l'envers, parce qu'il respecte lui-même les cycles de vie qu'il a instaurés. Il peut juste les condenser dans le temps, et nous, on appelle ça un miracle. Mais en général, il y a un temps de gestation. Pour les humains, c'est un certain nombre de mois. Pour les éléphants, c'est plus long. Pour les fleurs, c'est plus court. Pour les souris, c'est autre. Et donc, ça, c'est le temps de Dieu. Et il n'y a pas un temps de gestation identique pour un même travail dans deux personnes différentes et même pour un même travail à deux périodes différentes de nos vies. C'est dans les mains de Dieu. Sachant que le temps, pour lui, il n'a pas tout à fait les mêmes définitions que nous. Donc, fécondation par consentement, transformation intérieure, et puis ça augmente mon intimité avec Dieu, ça devient de la nourriture spirituelle, de l'énergie spirituelle, ça va de nouveau se transformer en reconnaissance, hein, toujours dans le sens reconnaître l'action de Dieu autour de moi dans ma vie, c'est ça que j'appelle louange, adoration, hein. On a cette très belle expression dans les Écritures, en tout cas dans les vieilles traductions, ça je regrette, ce mur l'a évacué, qui était « rendre grâce ». Hein ? Et l'expression au sens littéral est magnifique. « Rendre », ça veut dire quelque chose qui n'était pas à moi, on me l'a donné, je le rends. Tout ce que nous recevons est par grâce, la reconnaissance c'est rendre grâce. Puisque tout ce que j'ai, la Bible est très claire, c'est Dieu qui me l'a donné. Hein. Si je peux parler, c'est parce qu'il m'a permis de parler. Je peux respirer l'air qu'il me donne. Je peux me tenir debout parce que j'ai une colonne vertébrale qu'il m'a donnée. Enfin, tout ce que j'ai vient de lui. Mais il y a des choses que je considère comme c'est normal que j'ai ça, ou c'est à moi, ou ça vient de moi. Et chaque fois que je reconnais, mais pas juste avec des mots, intimement au fond de moi que ce que j'ai vient de Dieu, je lui rends grâce, c'est-à-dire que la grâce qu'il m'a donnée, je la lui retourne, et là, hop, on a de nouveau un cycle qui se boucle, et puis ça peut revenir. Donc, louange, adoration, et en même temps, cette intimité va se traduire par des fruits, donc petit à petit, je vais progresser dans la patience, avec des fois des accès de colère, mais voilà, je vais devant Dieu, puis je lui dis, tu vois, ouais, le travail n'est pas fini, mais j'ai encore besoin de toi, je suis conscient à ce que tu me transformes, et dans le temps, il va travailler. Et des actions concrètes, c'est-à-dire que toute cette énergie, cette intimité et ces fruits vont me pousser à prendre soin de mon prochain, de quelqu'un, de quelque chose, ces fameuses bonnes œuvres, œuvres bonnes, que Dieu a préparé d'avance pour que nous y marchions dedans. Et là, on rejoint ce que... je suis désolé, j'ai oublié votre prénom. Ce qui nous a été dit tout à l'heure sur découvrir qui nous sommes et trouver notre place. Dans ce cycle-là, on voit qu'en fait, les fruits et les actions concrètes vont m'amener dans ce qui est le champ d'action que Dieu a prévu pour moi naturellement, parce que le fruit fait que... Hein. La noisette se dit pas, et si je nourrissais les écureuils, il se trouve que les noisettes, c'est la nourriture des écureuils. Donc, parce que le noisetier, sa fleur a été fécondée, ça a fait une noisette, et la noisette nourrit les écureuils. Mais si ça avait été un pommier, ça aurait fait une pomme, et la pomme nourrit pas les écureuils, mais elle nourrit les humains, les vaches, les oiseaux, etc. Donc, je dirais, quand on est concentré sur la bonne partie du processus, on a moins à se demander où est ma place, qu'est-ce que je devrais faire, parce que ça va être un fruit, ça va être naturel. Et si on vit dans un environnement communautaire sain, souvent les autres vont le voir avant nous. Parce que ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire, c'est quelque chose que je suis. Et des fois, on ne voit pas qui on est. Mais les autres vont le voir et vont dire « Mais tu serais tellement à ta place là-dedans. » Moi, mais oui, comment ça? Mais oui. Et puis finalement, on va essayer ça. Ah, mais c'est vrai, mais je ne l'avais pas vu. Mais nous, on l'a vu. Hein. Donc ça, c'est peut-être, on abordera ça dans la quatrième session, dans la vie communautaire. Justement, quand on fonctionne avec ces cycles de vie, une de nos responsabilités à chacun des membres du corps de Christ, plutôt que de chercher qu'est-ce que je pourrais faire ou je devrais faire, c'est aussi de regarder autour et dire, waouh, Jean-Jacques, il est tellement à sa place quand il met les gens en connexion et puis qu'il fournit. Geneviève, elle est tellement douée pour écouter et pour reformuler les choses que les gens comprennent et poser les bonnes questions. Ah, Marc, il est tellement. Et peut-être eux, ils ne pensent pas, ils ne savent pas, mais ils trouvent leur place comme ça. Et donc, ça aide beaucoup. On arrive à la diapo d'après. Donc, qui reprend en fait un petit peu tout ça. Hein. Vous voyez, donc ça c'est, on est encore dans les généralités, je suis d'accord, on va devenir plus concret encore après, mais on a le cycle normal qui devrait être ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples du Christ, les croyants, appelez-le comme vous voulez, vivent. Et lorsque je lis la Bible, je dois chercher ce que je viens de lire là, ce que je comprends, où ça se situe ici, hein ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'explique ce que Dieu fait, ce que Dieu est, est-ce que c'est... Et puis, comment ça, ça, Peut-être, je ne sais pas si c'est le bon schéma celui-là. Pourquoi il est. Oui, si, bon, c'est le cycle final. Et de placer les choses là, parce que sinon, quand je disais de mettre l'énergie au bon endroit, hein, si je reprends mon exemple de patience et d'impatience, si mon énergie, elle est mettre, je ne dois pas être impatient, je m'épuise, hein, ça fait peur. Alors que si je me dis, je dois plus être connecté à Dieu, je dois prendre plus de temps pour vivre dans son intimité, c'est même plus difficile, mais c'est plus productif et c'est le bon endroit où il faut mettre de l'effort. Hein. Donc voilà, s'il n'y a pas le. Peut-être on peut juste faire un petit retour. Je ne sais pas, Marc, si on peut. Attends. C'est. Voilà. Il y a des petits chiffres en haut à droite, là. C'est le 6. Voilà, celui-là. Hein, voilà. Donc, après, je vais enlever les images et puis je vais vous revoir. Et on va continuer de partager ce moment. Mais voilà, là, on voit bien par rapport aux Écritures. Hein, si je ne l'écoute pas, si je ne la lis pas, j'ai mis écoute parce que je me suis aperçu que à notre époque, pas mal de mes connaissances plutôt jeunes, plus jeunes que moi, disaient ne pas prendre le temps de lire la Bible. En fait, on a la Bible en audio sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, etc. Et beaucoup m'ont dit avoir recommencé à lire la Bible en l'écoutant. C'est pas exactement la même concentration, surtout si on le fait en conduisant. Mais personnellement, j'écoute beaucoup la Bible en marchant, quand je vais marcher. Pas à la place de la lire, mais en plus, et j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis écoute et lecture au même niveau. Il faut se rappeler d'ailleurs que dans l'Église primitive, très peu de gens savaient lire, hein, donc ils n'avaient que l'écoute. Maintenant, leur capacité d'attention était meilleure qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas été abîmés par les écrans et autres. Donc, écoute, lecture, c'est indispensable. Compréhension et déchiffrage aussi, parce qu'on voit l'exemple avec Philippe, le diacre de l'Église primitive dans le livre des Actes, et puis cette tenue qu'éthiopien, hein, qui lisait Ésaïe. Et puis Philippe lui dit, est-ce que tu comprends? Ben non, comment je comprendrais si on ne m'explique pas? Alors, il y a des choses très très simples dans les Écritures, mais il y a des choses moins simples. Et on a besoin d'aide pour comprendre et déchiffrer, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul. Mais c'est une étape importante. Et puis, comme je l'ai dit, la méditation, prière silencieuse, dialogue avec Dieu, méditer sur le texte. Peut-être certains d'entre vous, ou peut-être tous, êtes familiers avec quelque chose qui revient à la mode, même chez les évangéliques aujourd'hui, qu'on appelle Lectio Divina, qui peut être pratiqué sous plein de formes. Hein. Mais c'est prendre le texte biblique et faire ce qui était à la base dans les psaumes, hein, dans une réponse sur le site Bible Ouverte récemment, je répondais à quelqu'un qui posait des questions sur la méditation et je disais prendre les mots de la parole de Dieu et les mettre dans sa bouche comme les bonbons qu'on laisse fondre, qu'on n'a pas le droit de croquer. Et il faut les garder suffisamment pour qu'ils fondent dans la bouche. Hein ? Ce qu'on voit dans tout ce début de processus, c'est qu'il y a une chose indispensable, c'est le temps. Il n'y a pas d'écoute et de lecture sans le temps. Il n'y a pas de possibilité de creuser la compréhension et le déchiffrage, etc., sans le temps. Et il n'y a pas de possibilité de méditer sans le temps. Alors, on peut dire, je n'ai pas le temps. Je sais, moi aussi, je le dis comme tout le monde, hein. On a tous, rendons grâce à Dieu pour ça, 24 heures par jour, à nous d'organiser nos vies, et il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres. Et j'ai 5 enfants, et les 4 premiers étaient très rapprochés. Pendant quelques années, le temps a été très difficile à avoir, mais on peut en trouver quand même un petit peu de qualité, c'est possible pour tout le monde. Hein. On ne se compare pas, on ne se décourage pas, on ne se condamne pas. Mais il faut du temps, et pour avoir du temps, il faut planifier d'avoir du temps. J'aborderai dans la prochaine session les mythes et légendes chrétiennes. Parmi ceux-là, il y a le fait que le culte doit être le matin quand on se lève. Hein. Et on verra pourquoi il y a une origine à toutes ces choses-là, mais que ce n'est pas forcément la seule façon de faire. En tout cas, là, je veux juste te dire, il faut du temps. Et de mettre notre énergie plutôt sur faire les choses dans cet ordre et prendre le temps plutôt que je lis vite fait un texte qui a été médité par quelqu'un d'autre et puis qui me dit à la fin, voilà ce qu'il faudrait faire, et puis je le fais. Et c'est le même schéma qu'on retrouve la plupart du temps dans les prédications traditionnelles du dimanche matin, hein, où on a, voilà, on nous explique ce que Dieu dit, quel que soit le domaine, et ça se termine après quelques applications, toujours par une exhortation plus ou moins bien formulée qui nous dit, et maintenant, à vous de le mettre en pratique. Mais honnêtement, qui parmi nous, si on était capable de mettre en pratique la Bible, ferait autre chose ? Enfin, peut-être des fois on ne le ferait pas, mais il n'y aurait que les gens de mauvaise volonté qui ne seraient pas parfaits. Or, l'apôtre Paul lui-même nous dit, je sais ce qui est bien et je n'arrive pas à le faire. Hein, fin de Romains 7, je sais ce qui n'est pas bien, j'y suis quand même dedans. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, il y a une issue à ça. Mais l'issue, elle n'est pas dans essayer de faire ce que Dieu dit qu'il faut faire, elle est dans mettre notre énergie pour se laisser transformer, féconder par l'action de Dieu, par son esprit, par sa pensée, pour être transformé. Sans spiritualiser tout, bien entendu. Si j'ai la vaisselle à faire chez moi, je ne prie pas que Dieu me transforme pour faire la vaisselle, je mets mes mains dans l'eau et je fais la vaisselle. Hein, il y a du bon sens à avoir, il faut savoir de quoi on parle. Mais je parle sur les changements dans nos vies importants. Moi, je ne pense pas que les chrétiens, les croyants ne sont pas mieux parce qu'ils ne veulent pas. Même pas parce qu'ils ne prennent pas le temps d'essayer d'être meilleurs. Mais juste parce qu'on met notre énergie et nos efforts au mauvais endroit. Et je ne pense pas non plus que les gens qui disent de faire ça le font par méchanceté ou juste parce que c'est comme ça qu'ils essaient de le faire aussi. Hein. Donc, ce n'est pas une accusation. Mais en tout cas, pour moi, j'ai pu voir dans le temps que ça ne fonctionne pas. Peut-être que je suis particulièrement pas discipliné, pas doué, pas de volonté, handicapé, avec plein de choses, c'est vrai. Alors, j'ai peut-être plus besoin que d'autres de ça, mais je pense quand même que c'est vrai pour tout le monde et que ça peut être vraiment utile.